Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Balkissa Amidou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivrez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz, Kouartagi FM 90.9 MHz, Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Le forum du Studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à la formation professionnelle des jeunes au Niger. Avec un Nigérien sur trois âgé de 15 à 25 ans, ce sujet est crucial pour l'avenir du pays, autant en termes de perspectives pour les jeunes. Que d'espoir de développement pour le pays. Mais les capacités d'accueil dans les filières de formation professionnelle reste limité aussi bien en termes de quantité que de diversité et du seuil d'accès. Selon l'ANIOR du ministère des Enseignements professionnels et techniques, on est passé de 8% des élèves inscrits dans ces filières en 2009 à 27% en 2016, l'objectif étant d'atteindre 40% en 2021. Pour l'année 2015-2016, l'effectif était de 211 529 apprenants, dont 169 381 dans le système non formel, non diplômé, et 40 148 élèves dans le système formel. On apprend toujours de l'ANIOR que la moitié des élèves du ministère de l'enseignement professionnel et technique sont des filles, un taux nettement meilleur que dans les autres secteurs de l'éducation. Enfin, dernier chiffre saillant, seuls 3% de ces apprenants sont dans le secteur agricole contre 80% de la population nigérienne. Face à cette situation, le gouvernement du Niger, avec l'appui de ses partenaires, notamment Suscontact, tente de consolider et d'élargir son dispositif de formation. Pour répondre à nos questions sur ce sujet, nous avons invité ce soir M. Haladou Magaji, inspecteur pédagogique général des enseignements techniques au ministère de l'enseignement professionnel et technique, M. Sahabi Yaji, président de la Fédération nationale des artisans du Niger, M. Mamadou Maïga, chef d'antenne du FAFPA, fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, ainsi que M. Seibou Garba, responsable ingénieur formation à Suscontact. Avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons d'évaluer le besoin. Quelles sont les possibilités de formation pour les enfants non scolarisés ou déscolarisés qui représentent près de la moitié de leur classe d'âge en zone rurale? Le Niger ne manque-t-il pas de solutions de formation pour cette population?
Pour aborder votre question, en ce qui concerne les offres de formation des non scolarisés et des déscolarisés, alors il s'agit tout simplement de revoir les différents dispositifs que le ministère des Enseignements professionnels et techniques dispose. Et à cela, si je fais un recul en arrière, dans les années 95-16, il y avait un dispositif qui se dénommait Centre de formation en développement communautaire, on dénommait CFDC, et dont, après notre accession à cette direction-là qui pilote ce centre, ils ont pris la dénomination de Centre de formation au métier. Au départ, ce Centre de formation au métier était un dispositif dédié aux non-scolarisés et aux déscolarisés et de façon à ce qu'ils permettent d'avoir des formations non formelles. Mais maintenant, ils sont formalisés avec l'appui des partenaires, notamment Coopération Suisse et Suscontact qui est en face de nous. Et d'autres partenaires, le ministère a pu ériger ces centres avec des textes réglementaires pour qu'ils deviennent des centres formels. À part eux, l'appui de la Coopération Suisse nous a fait connaître un autre type de dispositif qu'on appelle site de formation intégrée, de formation agricole, SIFA. Et ces SIFA-là, compte tenu de la réforme que le ministère a adoptée, et un certain nombre de décrets que le gouvernement vient d'adopter le 2 novembre passé, ils sont dénommés cette fois-ci centres de formation aux métiers agricoles. Ce sont ces CIFA-là qui sont un peu répandus à l'intérieur du pays, dans deux régions principalement. Dans la région de Dosso, il y a 12. Dans la région de Maradi, il y a 12. Ça fait 24. Et nous avons aussi d'autres partenaires, à part la coopération suisse, qui financent ces genres de dispositifs, notamment dans la région d'Agadez, il y en a deux. Voilà, de façon structurée, et qui sont toujours... Et CFM-là, ils sont du non-formel. Et CFM, maintenant, sont devenus formels. Voilà ce qui concerne les non-scolarisés et les déscolarisés, de façon à avoir trouvé un dispositif. Maintenant, il y a d'autres dispositifs, notamment l'apprentissage. Tous les types d'apprentissage sont développés sous financement du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et à part ces partenaires-là, c'est d'autres ONG au Niger, en faveur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, développent aussi des formations du non-formel en ce qui concerne les déscolarisés et les non-scolarisés.
Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à M. Sahabiaji. Pensez-vous qu'il y a des besoins? Quelles sont les possibilités de formation pour les enfants non-scolarisés et déscolarisés qui représentent près de la moitié de leur classe d'âge en zone rurale?
Merci, madame, pour cette opportunité que vous offrez à la Fédération nationale des artisans du Niger pour participer à ce forum dont le thème est très important. La Fédération nationale des artisans du Niger est une structure très organisée. Elle est présente dans toutes les régions, dans tous les départements et dans toutes les communes. Donc c'est ce maillage qui donne à la Fédération un cadre, en tout cas pour les jeunes Nigériens, pour se former. Il est vrai que le gouvernement de la 7e République a fait beaucoup d'efforts en créant des centres de formation au métier dans toutes les communes, des CET dans tous les départements, mais cela est insuffisant au vu du nombre de jeunes demandeurs de formation. Aujourd'hui, il y a en tout cas une étude qui a démontré qu'il y a 30 000 jeunes qui n'ont pas pu intégrer les centres de formation au métier et qui ne sont pas à l'école primaire, donc qui ont dépassé le niveau CM2 et qui doivent être ou dans les CET ou dans les CFM. Mais compte tenu de la capacité du dispositif à accueillir les jeunes, le nombre étant limité, donc il y en a qui sont restés hors du système. Donc à l'heure actuelle, le ministère des Enseignements professionnels et techniques cherche des solutions. Comment est-ce qu'il faut prendre en charge ces jeunes? Donc, la Fédération nationale des artisans du Niger, à travers ces 80 000 maîtres d'apprentissage, les maîtres d'apprentissage, c'est des artisans aguerris qui ont des ateliers qui encadraient des jeunes Nigériens, ce qu'on appelle la formation sur l'État. Donc, offre la possibilité à l'État du Niger, au ministère, en tout cas, de placer ces jeunes pour être formés sur une période bien déterminée selon les filières. Nous avons mené une petite expérience dans ce domaine il y a un an. Donc le ministère des Enseignements professionnels et techniques, la Fédération nationale des artisans du Niger et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, en essayant de placer 200 jeunes dans les ateliers au niveau de chaque région. Et c'est une expérience qui a donné un très bon résultat. Parce que l'intérêt dans ce genre d'apprentissage, c'est que les enfants sont en contact avec la réalité. En même temps qu'ils apprennent le métier, mais aussi ils découvrent les réalités de la gestion d'une petite entreprise artisanale. Donc rapidement, ils se familiarisent. Et quand nous avons essayé de faire un tour pour faire le suivi, nous avons constaté que plus de 90% de ces jeunes sont restés avec les maîtres où ils sont en apprentissage. Donc présentement, ils sont restés dans les ateliers. Et je ne vois pas d'inconvénient à ce que cette expérience soit élargie pour accueillir les 15 000 jeunes comme souhaité par le ministère des
Enseignements. À votre avis, c'est une alternative?
C'est une alternative. On n'a pas du choix. Il n'y a aucun cadre qui va permettre d'accueillir ces 15 000 jeunes en dehors des ateliers des artisans, qu'ils soient affiliés à la fédération ou pas.
Monsieur Mamadou Maïga, est-ce qu'il y a des besoins? Quelles sont les possibilités de formation pour les enfants non scolarisés et déscolarisés?
Merci, madame, de nous avoir accordé cette opportunité de nous exprimer sur les activités que nous menons. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter un peu le FAFPA. Le FAFPA, c'est le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative. Il faut le dire, le FAFPA est sous tutelle du ministère des Enseignements professionnels et techniques et dont sa mission principale et la mise en œuvre de la politique nationale du gouvernement en matière de formation professionnelle. Dans ce sens, le FAFPA finance les actions de formation. Pour répondre à la question, les jeunes déscolarisés ou non scolarisés qui aujourd'hui préoccupent pas mal des gens sur toute l'étendue du territoire, le FAFPA, avec la collaboration des artisans et l'appui technique et financier des partenaires comme la Banque mondiale, à travers le programme de développement des compétences pour la croissance PRODEC et l'Union européenne, du moins à travers le programme 800E et Niger 017, arrive à mettre des jeunes en formation. Ces jeunes, c'est des jeunes âgés de 15 à 25 ans qui ont abandonné l'école très tôt ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Tous ces jeunes-là sont récupérés par le FAFPA et placés dans les ateliers des artisans où ces jeunes vont apprendre le métier à travers la formation DIAL ou bien la formation par alternance. Par alternance, pourquoi ? Parce que les jeunes, il faut leur pratique dans les ateliers. La formation DIAL, c'est une formation initiale qui est dispensée aux jeunes au niveau de deux pôles de formation. Le premier pôle, c'est l'atelier dans lequel l'enfant va apprendre le métier d'une manière pratique. Et de l'autre côté, le centre de formation où l'enfant recevra les cours complémentaires du métier. Il faut le dire, c'est une formation dans laquelle les deux pôles sont liés par une fiche de navette. L'enfant, il vient avec sa fiche, le centre de formation, où il va écrire toutes les compétences qu'il a apprises pendant son séjour au centre. Au retour, il va montrer ça à son maître d'apprentissage qui va lui donner la matière d'œuvre pour qu'il reprenne la confection de l'ouvrage qu'il a appris théoriquement, sous le regard et le contrôle de son maître d'apprentissage. Et à la fin de l'ouvrage, le maître d'apprentissage qui est son encadreur dans l'atelier va faire des observations sur les points non maîtrisés par l'apprenti. L'enfant revient avec cette fiche navette au centre de formation qu'il va présenter à son formateur du centre. Le formateur regarde les insuffisances constatées par le maître d'apprentissage pour qu'il puisse améliorer ce point. Et vous voyez, conviendrez avec moi, avec ce type de formation, l'enfant arrive à apprendre ou à maîtriser les compétences facilement. Pour preuve, les jeunes qui ont suivi cette formation, actuellement, le président vient de le souligner, la plupart de ces jeunes sont actuellement insérés dans la vie socio-professionnelle. Et il faut le dire, ce type d'apprentissage est sanctionné par des attestations de fin de formation. Et là, à ce niveau, le ministère a fait un effort pour permettre à ces jeunes non scolarisés, s'ils ont la volonté de continuer leur formation, qu'ils puissent accéder à la formation formelle. Quand vous regardez de la formation non formelle, l'enfant a la possibilité de continuer dans les collèges d'enseignement technique à travers les passerelles tracées par le ministère.
Donc c'est une ouverture qu'on vient de faire.
Effectivement, c'est une ouverture, madame. Parce que quand l'enfant va commencer l'apprentissage, il peut faire l'attestation de qualification de base 1. Il fait une deuxième étape, la qualification de base 2 jusqu'au certificat et faire une attestation professionnelle du métier. Cela lui permettra d'aller directement faire son CAP dans un CFM ou ainsi de suite continuer sa formation.
Il peut arriver jusqu'au stade de paroxysme.
Il peut être même un ingénieur s'il le veut.
D'accord, merci. Et monsieur Seibou Garba, nous allons revenir vers vous. Parlez-nous, est-ce qu'il y a des besoins en formation? Quelles sont les possibilités de formation pour les enfants non scolarisés et déscolarisés?
Merci madame pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de ce qu'on fait au Niger. Donc je me permettrai de présenter d'abord brièvement SwissContact pour vos auditrices et auditeurs. Donc SwissContact est une fondation suisse de coopération technique au développement qui est présente dans 35 pays dans le monde avec environ 1500 collaborateurs. Nous sommes au Niger depuis 2005 et depuis 2005, nous menons des projets et des programmes de formation et d'insertion des jeunes. Donc à travers des financements de plusieurs bailleurs dont la coopération suisse, l'UNICEF, l'Union européenne, GIZ, etc. Donc pour parler des offres de formation et de la demande de formation au Niger à destination des jeunes ruraux, déscolarisés et non scolarisés, SwissContact, nous avons fait le pari de développer des dispositifs de proximité donc qui sont au niveau des communautés de base et qui répondent aux besoins de l'économie locale. mais aussi à la demande et aux aspirations des jeunes. Donc dans ce cadre, nous avons développé un certain nombre de dispositifs et d'offres avec les différents partenaires, dont le ministère, conseils régionaux, les collectivités décentralisées en général, la FNAN. Donc parmi ces dispositifs, mes prédécesseurs ont parlé de la formation duale, de l'apprentissage dual. Donc nous faisons l'apprentissage dual au niveau de nos zones d'intervention en collaboration avec la Fédération des artisans du Niger. Donc ce concept consiste à prendre les jeunes qui sont déjà en apprentissage. En fait, nous amenons une petite amélioration de l'apprentissage traditionnel, informel qui existe déjà. Dans tous les ateliers, vous allez trouver des apprentis qui sont là, mais qui peuvent faire 10 ans, un certain nombre d'années, sans apprendre réellement le métier. Donc pour cela, nous, on s'est dit, on va renforcer ce système qui existe. Donc on prend les jeunes qui ont au moins 6 mois d'apprentissage dans l'atelier et on les forme effectivement sur les deux pôles. Donc autant dans son propre atelier avec un maître d'apprentissage, mais également dans des centres de formation. Donc, ils font la navette entre les deux structures.
La théorie et la pratique.
La théorie et la pratique, oui. En centre, ils font aussi la pratique. Ils font la théorie, mais ils font également la pratique. Donc, nous avons créé des centres de formation des artisans qui accueillent ces jeunes-là 2 jours en centre. Donc, le cursus, c'est 2 jours en centre. Et les restes de jours de la semaine, les apprentis sont dans leur atelier avec l'encadrement de leur maître d'apprentissage. Donc là, nous faisons ça dans 6 domaines, dans 6 métiers. Il y a la couture, il y a la construction métallique, il y a la mécanique auto, mécanique moto, la menuiserie, l'électricité et l'électronique. Donc nous avons, à partir de cette année, nous avons développé les 2 filets électricité et électronique. Comme 2e type de formation, nous avons les FIP, les formations initiales professionnalisantes. Ce type de formation est destiné à des jeunes qui sont sans activité ou bien sous activité. Donc on les forme pendant un temps relativement court, 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines, sur des besoins spécifiques. Et après, les jeunes peuvent se mettre à leur compte. Donc les métiers, ça peut être la réparation des cellulaires, ça peut être la plomberie, ça peut être la restauration. Vraiment tout en fonction du besoin de la localité. On fait du perfectionnement. Là, c'est des jeunes qui sont en activité, mais qui ont besoin de se perfectionner, soit pour avoir une nouvelle prestation, ou bien ce qu'ils le font pour qu'ils puissent l'améliorer. Comme 4e type de formation, nous avons l'appui au CFM, dont l'inspecteur général en a parlé. Donc nous appuyons les CFM dans la mise à disposition des programmes de formation, l'équipement, la construction. On a construit 17 CFM et on forme les formateurs également des CFM. Comme autre dispositif, le dernier, donc le 5e, que nous avons développé nous-mêmes au Niger, ici sur ce contact, que nous appelons SIFA, site intégré de formation agricole. Nous avons présentement 26 SIFA, qui sont des sites de proximité, que nous appelons, c'est des centres SAMUR, qui forment les jeunes déscolarisés et non scolarisés de 15 à 35 ans. On les forme pendant 8 mois, 4 mois sur le site et 4 mois dans leur propre exploitation, pour qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris sur le site. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire de l'offre que nous avons.
Nous allons observer une petite pause avant de continuer ce forum. Revenant dans ce studio pour continuer ce forum, nous allons donner la parole à M. Magagi. Vous avez entendu les chiffres. Finalement, la grande majorité des apprenants du secteur sont formés par le système non formel et non diplômant. De quoi s'agit-il? Faut-il s'en féliciter?
Bien, merci madame. Il faut certes se féliciter. Mais cela va dire qu'ils vont continuer à être non formels. L'État, à travers le ministère des enseignements professionnels et techniques, il vous a dit, poursuit des réformes. À travers ces réformes, tout à l'heure, mon collègue du FAPPA vous a dit qu'il y a des passerelles. Alors, les non-scolarisés et les déscolarisés qui vont prendre un perchoir de formation ou de l'apprentissage, par quelque moyen que ce soit, auront à avoir des titres de reconnaissance qui sont reconnus et adoptés par les décrets dont je viens de faire cas le 2 novembre 2018. Lorsque le jeune ou la jeune est non-scolarisé, dans ces dispositifs-là, il faut comprendre que l'alphabétisation fonctionnelle va être de mise. Ça veut dire que nous collaborons avec les autres ministères en charge de l'éducation et de la formation. formation pour pouvoir renforcer les capacités de ces jeunes. Alors, les déscolariser, parce qu'il y en a de plusieurs ordres, très tôt, précocement ou bien tardivement. Eux aussi, selon leur niveau, ils auront un renforcement de capacité de français fonctionnel afin de pouvoir d'abord maîtriser la langue, que ce soit la langue vernaculaire ou bien la langue officielle, le français. Alors, ça va permettre aux jeunes de pouvoir bien maîtriser les exercices de la matière professionnelle qu'il est en train d'apprendre. Et ils ont fait un étalage des filières. Les filières, il y en a de plusieurs ordres. Mmh. Il y a ceux du domaine industriel, ont été cités par mon collègue Sebou. Mmh. Il y a des filières aussi du domaine tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui va concerner secrétariat, bureautique, comptabilité, gestion, administration, commerce, etc., etc. Tout ceci, c'est du tertiaire, service, tout ce qui concerne le tertiaire. Mais il y a aussi des filières du primaire, du secteur primaire, notamment l'agriculture, l'élevage et tout ce qui concerne les métiers qui sont liés, comme la transformation agroalimentaire, etc. Donc, de façon globale, tous ces métiers vont être appris aux jeunes et à travers maintenant un système de validation que les décrets ont préconisé maintenant, ils vont passer par d'abord les attestations de qualification de base. Attestation de qualification de base 1, ça va montrer si le jeune maîtrise un certain nombre de matières théoriques, notamment le français, le haoussa ou le germain. Ensuite, greffé avec d'autres connaissances, notamment les petites notions de gestion. Ensuite, on va arriver à une autre attestation qu'on appelle attestation de qualification de base 2. Là, c'est le cours théorique de la profession qu'on va lui inculquer. Il faut d'abord qu'il maîtrise la théorie. Et on monte maintenant à l'attestation de qualification de base 3. Là, il va être initié à la pratique. Quand il maîtrisera ces trois attestations, selon le schéma de la passerelle, il peut donc, à travers la passerelle, se faire valoir un certificat. Les certificats sont dénommés dans les différents décrets. Il y a un certificat qu'on appelle certificat de qualification au métier. Mega vient de vous le dire, qu'on appelle CQM. Et après, il y a un autre certificat qui s'appellera certificat de qualification professionnelle. Tout ce que je suis en train de développer, et jusqu'à arriver au niveau d'avoir la possibilité d'aller jusqu'à l'université, parce qu'il y a d'autres diplômes, il y a le brevet professionnel de qualification, il y a le brevet de professionnel de technicien, et etc. Juste que l'enfant puisse être vraiment en mesure d'aller
au niveau supérieur
et devenir ingénieur. Là, c'est réglé déjà. C'était un vide. Nous nous sommes battus avec les représentants qui sont là, la FNAN et autres, pour pouvoir faire ce travail-là qui avait commencé depuis les années 2010, si ma mémoire est bonne. Donc, à ce niveau, les jeunes n'ont pas de soucis. L'essentiel, ce que nous voulons en tant que ministère, que d'abord le jeune ait confiance en lui-même et qu'il ait confiance en son pays et qu'il ait la volonté de venir apprendre un métier et avoir l'idée de rester dans son pays, participer au développement socio-économique et culturel de son pays.
Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que l'enfant puisse poursuivre le processus?
Le processus, les conditions que je viens de décrire, ça s'est réuni parce que bientôt, les différents textes complémentaires qu'on appelle arrêtés d'application des décrets, il y en a déjà 9 qui ont été élaborés par le ministère. Il y a une trentaine encore qui sont en cours d'élaboration. Et c'est dans ces établissements, c'est dans ces dispositifs-là que les évaluations vont être organisées. Donc, à ce niveau, tout comme on fait les évaluations au titre du CAP formel, hein, du BEP, du bac professionnel, du bac technique, ce sont ces dispositifs-là qui vont accueillir les récipiendaires afin de pouvoir les évaluer. Et l'évaluation sera en concertation avec les professionnels et même les experts des partenaires techniques et financiers, notamment ceux du domaine de l'ingénierie de formation.
À votre avis, faut-il formaliser ces filières? Qu'en est-il du secteur formel?
Non, ces filières-là, c'est comme ce que je viens de dire au niveau du CFM, qui était auparavant CFDC. Au fur et à mesure de l'évolution, l'État prendra la mesure du niveau atteint. Et une fois que le gouvernement se rend compte qu'il y a lieu de formaliser un certain nombre de filières ou de nouvelles options de filières qui viennent d'être développées, l'État n'hésitera pas. Parce que le souci du gouvernement nigérien, c'est de ne pas voir ses jeunes, sa jeunesse aller à l'extérieur, exercer, et on va demander à cette jeunesse de quoi tu es capable. Il sait faire, mais il n'a pas de titre, il n'a pas de diplôme. Donc l'État a pris conscience de ça depuis les années 2000. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire par rapport à cela. L'État prendra toutes les dispositions afin de pouvoir préparer bien les évaluations et tous ceux qui auront le mérite de saisir ou les titres ou les diplômes, ils les auront, Inch'Allah, au Niger.
On a l'impression que beaucoup trop de places sont offertes aux jeunes. Qu'en est-il?
C'est normal. La jeunesse, c'est elle le fer de lance de l'économie du pays. Madame, on doit former la jeunesse pour préparer la relève. Nous sommes en train de partir. Moi, je tends vers la 56e année. Il faut qu'on prépare celui qui va me remplacer ou d'autres qui vont me remplacer. C'est pourquoi l'État nigérien a mis un accent particulier particulier sur la formation et l'insertion de la jeunesse nigérienne.
Monsieur Sahabi, nous allons revenir vers vous. Combien de membres compte votre fédération?
Merci. Donc, la Fédération nationale des artisans du Niger compte 8 fédérations régionales. Ce sont 13 fédérations départementales. Nous sommes installés dans la plupart des communes, en dehors des zones d'insécurité, avec des associations de base au nombre de 527, qui totalisent 79 913 adhérents comme femmes.
Et combien de jeunes sont formés dans le cadre de l'apprentissage traditionnel?
Dans le cadre de l'apprentissage traditionnel, nous avons recensé auprès des structures affiliées à la Fédération nationale des artisans du Niger 41 000 jeunes, garçons comme filles, donc qui sont en apprentissage traditionnel auprès de nos maîtres d'apprentissage.
Est-ce à votre avis la bonne solution?
Oui, c'est là où nos avis convergent avec M. Aladou, parce que je ne pense pas qu'il faille se contenter de la situation actuelle. Certes, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'efforts pour élargir les offres de formation dans le secteur formel, mais il faut qu'on se rappelle qu'en 2005, le Niger s'est engagé dans la réforme de l'apprentissage traditionnel. Donc, ce que nous faisons, il y a eu des forums, il y a eu des outils qui ont été mis en place pour former cet apprentissage, amener les artisans à prendre plus de jeunes, amener les artisans à moderniser l'apprentissage, par exemple en prenant en compte un contrat d'apprentissage pour qu'il y ait une durée limite pour un apprenti. On ne peut pas être apprenti éternellement. Donc ça, nous étions d'accord. Donc le Niger a engagé des réformes. Nous avons mené une expérience sur 10 métiers. Le ministère, l'État, s'est engagé à généraliser ce mode d'apprentissage qui est dit apprentissage moderne. Mais malheureusement, chemin faisant, on constate qu'il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu la généralisation souhaitée, parce que c'est ça qui allait permettre à l'État du Niger de juguler le problème de formation des jeunes. Parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, présentement, il y a un nombre impressionnant de jeunes qui ne sont ni à l'école primaire, ni dans les dispositifs créés, c'est-à-dire les CFM et les CET. Donc ces gens-là, ils vont devenir quoi? C'est seul l'apprentissage ou traditionnel ou moderne, donc appuyé par les partenaires et l'État, peut nous aider à trouver la solution.
Et quels sont les problèmes que vous rencontrez? Manquez-vous de candidats?
Le premier problème, c'est par rapport à la tutelle, qui est le ministère de la formation professionnelle. Donc, où nous constatons que le ministère pense qu'il est le détenteur absolu de la formation professionnelle. Seul lui a le droit de piloter la formation professionnelle. Il ne reconnaît pas ses autres acteurs qui forment 80% en réalité de ceux qui sont dans la formation professionnelle. Madame, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous sortez de chez vous avec un pneu crevé, le vulgarisateur à qui vous allez faire recours, si vous lui posez la question, il va vous dire qu'il n'a pas fait le CFM, il n'a pas fait le CET ou il n'a pas fait le lycée technique.
Pourtant, il fait
l'électricien à qui vous faites recours dans le quartier pour vous dépanner, si vous lui posez la question, il va vous dire qu'il n'a pas été dans un lycée technique ou dans un CET. Donc ça, les gens qui sont opérationnels aujourd'hui sur le terrain, c'est les gens que nous formons, c'est une réalité. D'ailleurs, on est en droit de se poser la question, que deviennent ce que le secteur du formel forme? Ces jeunes-là, pour la plupart, ils sont au chômage. Il y a des carences au niveau de la formation qu'ils pensent qu'on leur apprend un métier, ils viennent s'asseoir à la maison poser du thé pour dire qu'ils attendent un emploi. Or, ce n'est pas le même état d'esprit avec les jeunes que nous formons.
Mais est-ce qu'on peut mener une synergie d'action entre ce que fait l'État et ce que fait...
Tout à fait, c'est ce que je viens de vous dire. En 2005, on s'est engagé à créer une synergie pour moderniser ce que nous faisons de manière traditionnelle, en introduisant des programmes de formation, en limitant la durée d'apprentissage et en créant les conditions pour que ces formations soit certifié. Mais aujourd'hui, on est né où? Je pense qu'on est encore à la case départ.
Est-ce que certaines filières sont-elles mieux pourvues que d'autres?
Oui, il y a ce qu'on appelle les métiers porteurs. Même l'expérience que nous avons menée de 2005 à 2009, ce n'était pas par hasard. On a fait une étude pour identifier quels sont les métiers qui sont les plus aimés par les jeunes. Parce qu'il ne faut pas aller sur des filières que les jeunes n'aiment pas apprendre. Parce qu'il y a quand même jusque-là des préjugés sociaux. Vous avez par exemple des métiers comme le tissage aujourd'hui qui est en voie de disparition. Vous faites toute la ville de Niamey là, si ce n'est pas au musée national, vous n'allez pas trouver des tisserands. On a des métiers à tisser aujourd'hui au village artisanal, faute de candidats, parce que les jeunes n'aiment pas le métier. Ils sont là, il n'y a pas de formation. Ceux qui sont au musée national en train de tisser, quand vous allez voir qu'ils ont entre 60 et 80 ans. Il n'y a pas de jeunes.
Et pourquoi? Il y a des stigmatisations.
Voilà, donc c'est des préjugés sociaux. On estime qu'il faut être d'une une certaine classe pour exercer un certain nombre de métiers. Or, on doit dépasser ce stade-là. Nos jeunes sont là à dire qu'il n'y a pas de travail, alors qu'il y a 206 métiers au Niger où les jeunes peuvent s'engager. Et presque toutes les filières sont porteuses.
Quels sont les appuis qui vous permettent de mieux faire?
L'appui d'abord, c'est que l'État joue sa fonction régalienne. Nous avons besoin des textes pour encadrer. Tout comme on a introduit par exemple les contrats d'apprentissage qui permettent aux maîtres d'apprentissage de comprendre qu'il y a une durée pour l'apprentissage, qu'il y a des conditions à respecter. Nous pensons aussi que l'État doit continuer à appliquer des textes qui doivent en tout cas faciliter ou encourager les patrons à accueillir les apprentis et à les encadrer au mieux.
Est-ce que vous avez un manque d'enseignants ou d'ateliers pour la formation?
Ça, c'est pas ça qui manque. Et c'est là où les artisans excellent, parce que c'est des maîtres reconnus dans leur milieu comme étant des professionnels dans leur métier. C'est à eux qu'on confie des jeunes. Donc, tout ce qu'on doit leur apporter, c'est des petites formations pédagogiques ou en andragogie pour leur permettre de savoir comment transmettre le métier. Et c'est là où je vais profiter pour féliciter et encourager Suscontact, parce que dans toutes leurs zones d'intervention, ils nous permettent, en tout cas, ils nous assurent ce genre de formation. Et ça doit être, dans le cadre de la généralisation de l'apprentissage, ça doit être élargi. Donc le ministère doit prendre en compte dans son programme la formation des formateurs, les questions de formation pédagogique, les questions d'élaboration des curricula. Parce qu'à l'heure actuelle, certes, nous disposons d'une trentaine ou d'une cinquantaine de filières dans lesquelles on dispose de programmes. Mais comme je vous l'ai dit, le Niger compte 206 métiers. Même si on ne peut pas avoir des curricula dans les 206 métiers, nous pensons que toutes les filières porteuses où les jeunes peuvent s'engager à être formés, nous devrons disposer de programmes de formation. Ce n'est pas les partenaires qui manquent. Comme l'a si bien dit le représentant du FAFPA, il y a des partenaires comme l'Union européenne, le Luxembourg, la Banque mondiale, la coopération suisse qui sont en train d'engager beaucoup d'argent pour soutenir ce secteur.
Et merci. Monsieur Saibou, nous allons revenir vers vous. Quel appui les partenaires peuvent-ils apporter au Niger pour relever cet immense défi?
Bon, en tant que Suscontact, nous avons essayé effectivement de développer des dispositifs qui sont à proximité, comme je l'ai dit, des communautés, mais aussi qui peuvent être portés par les acteurs. Donc on a essayé de développer des dispositifs à moindre coût. Si on prend l'exemple des CIFA, on peut faire un CIFA dans chaque village. On sait que la population nigérienne est à 80% rurale. Donc les jeunes, ils n'ont pratiquement pas d'offre de formation. Donc c'est pour ça que nous avons développé ce dispositif CIFA pour répondre à cette demande. La plupart de la population ont envie de l'agriculture et de l'élevage. Et le CIFA permet aux jeunes de vivre de ce métier. Quand on faisait les premiers diagnostics, en interrogeant les jeunes, on leur demande « qu'est-ce que vous faites ?» Donc les jeunes ruraux, ils nous disent « on ne fait rien ». Alors qu'on sait que tous les jeunes qui sont dans les villages, ils font au moins l'agriculture. Ils disent qu'ils font rien parce que le pratiquant de l'agriculture ne vit plus de ça. L'agriculture n'arrive plus à nourrir son homme. Voilà. Après, on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire. Les métiers qui sortent, c'est les métiers classiques, la mécanique, la menuiserie, la couture, la cuisine, la construction métallique. Donc déjà, sur ce contact, nous avons développé avec le ministère en charge de la formation professionnelle un dispositif qu'on a appelé « plateforme d'orientation et d'information des jeunes » qui permet d'informer les jeunes sur les possibilités de formation, les possibilités d'insertion, les métiers qui existent pour un peu décloisonner l'information. Donc pour ça, on dit, bon, on développe ce CIFA qui forme les jeunes sur un court temps à moindre frais. Un CIFA peut former, quand il tourne en plein régime, jusqu'à 150 jeunes par an. Imaginez, on fait un CIFA dans chaque village. Je pense qu'on peut, parce que l'agriculture et l'élevage sont les parents pauvres de la formation. Il n'y a pratiquement pas d'offres dans ce domaine. Donc nous avons développé ça. Parce qu'au niveau du CIFA, les jeunes, ils apprennent la production végétale, donc tout ce qui est culture pluviale, maraîchage, culture de fourrage. Ils apprennent la production animale, donc aviculture, production d'aliments de bétail, élevage, embouche, etc. Mais ils apprennent aussi la transformation des produits qu'ils ont cultivés. Donc on leur donne cette palette. En plus, ils font l'alphabétisation. Ils font effectivement tout ce qui est thèmes transversaux, protection de l'environnement, voilà, restauration des sols, etc. Donc pour nous, on développe. Maintenant, c'est à l'État de voir comment mettre ça à l'échelle et comment aussi institutionnaliser ça. Pour nous, l'important n'est pas de, que ça soit du formel ou du non formel, l'essentiel est que ça soit reconnu, institutionnalisé et mis à l'échelle.
Récemment, j'étais sur le CIFA de Lokoko. J'ai vu que maintenant, ça a fait tache d'huile dans toute la commune. Et ça veut dire que ces jeunes ont compris aujourd'hui que l'agriculture et l'élevage sont comme les autres métiers aussi.
Effectivement, au début, les jeunes ne considèrent pas l'agriculture comme un métier à part entière. Et maintenant, on a vu avec le CIFA...
Il y avait des jardins partout.
Il y a des jardins. Au début, il n'y avait rien. Mais là, et les sortants, et ceux qui n'ont pas suivi même la formation, tout le monde s'est mis à l'agriculture, à l'élevage. L'avantage aussi, c'est que c'est CIFA. On a plus de jeunes filles que de jeunes garçons qui intègrent les CIFA. Je pense que dans le genre, c'est un plus. Donc maintenant, c'est aux autorités, à l'État, d'institutionnaliser cela. L'autre avantage du CIFA, c'est qu'il est à gestion communautaire. Donc les organisations paysannes, les mairies, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui portent ce CIFA.
Comment vous positionnez-vous, vous qui êtes Assist Contact, un spécialiste de ce secteur?
Bon, nous, on se positionne comme une assistante technique. Nous, on n'est pas de bailleurs. On reçoit des fonds, des bailleurs comme la coopération suisse. On fait plus de l'accompagnement en permettant à chaque acteur de jouer son rôle, à la fédération de jouer son rôle, au ministère de jouer son rôle, aux collectivités décentralisées de jouer leur rôle. Donc vraiment, c'est notre objectif et c'est notre rôle comme ça.
Monsieur du FOFPA, nous allons revenir vers vous, Mamadou. À quoi sert le FOFPA dans la politique de formation professionnelle du Niger?
Donc le FOFPA joue un rôle très important dans le secteur de la formation professionnelle. Et il faut le dire à travers le financement des actions de formation. Dans ce sens, le FOFPA finance des actions de formation continue et d'apprentissage, la formation des salariés et des entreprises, le renforcement des capacités des maîtres artisans, des artisans et des apprentis. En général, le FOFPA finance des actions de formation à l'intention d'un groupe cible qui est là aussi, les personnes en situation de handicap. Le FOFPA finance des formations pour eux, pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Donc, au niveau de la formation continue des entreprises, par exemple, toute entreprise qui paye la taxe d'apprentissage peut déposer son plan de formation au niveau du fonds pour que le FOFPA finance leur formation, c'est-à-dire la formation de son personnel. À part eux, il y a une autre formation que le FOFPA finance, toujours dans ce secteur, la formation des diplômés sans emploi. De nos jours, c'est une question qui est une préoccupation du gouvernement. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont pas pu s'insérer. Leur diplôme, je ne sais pas, peut-être c'est par inadéquation du besoin du marché du travail. Je vous donne juste un exemple. Suite à une étude menée par l'ANPE, le FOFPA a financé la formation de 150 jeunes diplômés, surtout dans le domaine minier ou pétrole, où des juristes qui ont déposé leur demande au niveau de l'ANPE et ils n'ont pas eu de satisfaction. Le FOFPA a organisé une formation de reconversion à l'intention de ces jeunes dans des filières qui sont plus demandées sur le marché du travail. Et dans ce sens, nous avons formé 30 jeunes en suivi évaluation qui étaient des diplômés des juristes qui ont été transformés en spécialistes de suivi évaluation. Une demande qui est plus demandée au niveau de l'ANPE pour répondre en fait au manque de, voilà, aux besoins exprimés par les entreprises de la place ou les projets. Et de l'autre côté, nous avons formé 30 spécialistes en infographie qui est aussi très demandé, très sollicité au niveau de l'ANPE et que l'ANPE n'arrive pas à les satisfaire. Il y a dans la région de Zender, par exemple, c'est une région qui a besoin des nutritionnistes. Il y a beaucoup de projets qui interviennent dans ce domaine. Grâce à cette formation du FOFPA, nous avons formé des jeunes en nutrition. Et je vous assure, ces jeunes-là, juste à la fin de leur formation, ils ont tous été recrutés par l'hôpital régional de Zender. C'est quelque chose à souligner parce que c'est
important.
C'est très important.
Et quelles sont vos difficultés que vous rencontrez?
Oui, les difficultés sont énormes. Parmi les difficultés, nous pouvons dire peut-être c'est la procédure, la lenteur dans la procédure d'encaissement de la taxe d'apprentissage qui est destinée au FOFPA. Parce que la principale ressource du FOFPA, c'est la taxe d'apprentissage et la subvention de l'État en plus des fonds des partenaires. Cette taxe d'apprentissage, le FOFPA n'arrive pas à accéder à cette taxe pour pouvoir mettre la mission qui lui est la sienne. Donc c'est vraiment la principale difficulté que nous rencontrons.
D'accord, nous sommes pratiquement au terme de ce forum. Nous allons donner une minute à chacun pour nous dire comment faire pour sortir la formation professionnelle de l'auberge. Nous allons commencer par vous, monsieur du ministère.
Merci madame. En une minute, c'est pas facile. Alors, pour pouvoir régler le problème de la formation professionnelle et technique de façon formelle ou non formelle ou informelle au ministère des enseignements professionnels techniques, la première des difficultés, c'est que il faut que les allocations budgétaires soient suffisantes, malgré les efforts que l'État est en train de déployer et appuyé par les partenaires techniques. Nous disons aussi qu'il y a à faire des infrastructures, parce que tout à l'heure, vous avez posé la question au président de la FNAN. Donc, le grand nombre de certains de nos dispositifs sont dans des locaux d'emprunt. C'est pourquoi nous souhaitons des appuis pour qu'il y ait assez d'infrastructures d'accueil. Ensuite, je disais tout à l'heure, le président de la FNAN a parlé de curricula. Tout le processus qu'il a décrit, là, on a fait ça ensemble, c'est-à-dire c'est avec le ministère. Alors, nous voulons qu'il y ait assez de moyens pour pouvoir réviser les curricula existants et faire d'autres curricula. Et enfin, il faut aussi qu'il y ait plus d'équipements dans les ateliers des différents centres et dans les ateliers des artisans et développer maintenant les formations que nous appelons technico-pédagogiques pour les ressources humaines, que ce soit formateurs des apprenants ou bien les formateurs des formateurs, c'est-à-dire les encadreurs pédagogiques.
Merci, voilà. Monsieur Sahabi.
Merci, madame. En tout cas, pour booster la formation professionnelle au Niger, pour moi, il faut une synergie d'action. Le ministère doit prendre en charge la formation professionnelle dans toute sa dimension, c'est-à-dire reconnaître aussi les autres acteurs qui œuvrent dans la formation professionnelle et qui contribuent énormément, comme notre cas, nous qui formons 80%, qui constituons 80% de la formation professionnelle. Il faut que le ministère nous considère comme des partenaires à part entière. D'autre part, il faut que l'État fasse l'effort de rétrocéder l'intégralité de la taxe d'apprentissage au fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage. Et au niveau du ministère, pour terminer, il faut que le ministère ait une large vision de la formation professionnelle. Pas simplement faire ce qu'ils sont en train de faire présentement, c'est-à-dire ils sont concentrés sur les quelques établissements qui font de la formation diplômante.
Monsieur Sebou.
Bon, sans revenir sur ce qu'ils ont dit, effectivement, il faut une synergie d'action avec tous les acteurs. Et nous pensons qu'il faut une maîtrise du coût. Ça ne sert à rien de faire des grosses infrastructures pour former un petit nombre de personnes. Donc, maîtrise de coût, synergie d'action, et effectivement que chacun joue son rôle. On a les collectivités décentralisées, les conseils régionaux qui sont en charge du développement de leur région. Il faut qu'ils jouent leur rôle, il faut que le FAFPA aille effectivement sur tout le territoire, il est déjà. Et il faut diversifier les domaines. Donc ne pas se cantonner toujours soit à la formation technique ou bien au métier classique, diversifier, offrir différents types de formations.
Monsieur du FAFPA, Mamadou.
Moi, pour joindre comme il s'appelle mes collègues, et je souhaiterais qu'il y ait plus de sensibilisation dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Parce que beaucoup de gens pensent que la formation professionnelle est réservée uniquement aux jeunes qui ont échoué dans la vie, alors que tous les pays qui se sont développés, ils se sont développés grâce à la formation professionnelle et technique. Il faut que toute la population du Niger prenne conscience de cela et qu'on puisse travailler en synergie, que chaque acteur joue correctement son rôle. Et en faisant ça, Inch'Allah, nous sortirons grandiose dans cette affaire.
Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Nous sommes au terme de ce forum qui a porté sur la formation professionnelle au Niger. En termes de conclusion, on peut retenir que pour booster la formation professionnelle, tous les acteurs doivent s'organiser en synergie. Il faut maîtriser les coûts, il faut diversifier les domaines et sensibiliser les jeunes pour qu'ils prennent conscience que la formation professionnelle est réservée à tous. À la présentation, Balkissa Amidou, à la technique, Lawali Issa, merci d'avoir été des nôtres.